Chers amis, je vous propose plusieurs lectures. La première, un extrait de psaume, le psaume 36, dont je lirai les versets 8 à 10, psaume 36, versets 8 à 10. Une parole bienfaisante, encourageante. Aussi dans le cadre de ce culte. Psaume 36, versets 8 à 10. Combien est précieuse ta bonté ? Un des plus beaux mots de l'Ancien Testament. On pourrait le rendre ici par ta loyauté. Ta solidarité, la constance de ton amour, ta bienveillance, ta fiabilité, ton amour compatissant. Ça, c'est tout ce que contient le petit mot du texte original. Alors ici, le psalmiste a choisi de le rendre en français, en tout cas par bonté, mais c'est un mot beaucoup plus riche que la simple bonté qui est déjà en elle-même tout un programme. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Un texte synonyme d'abondance, de largesse, de générosité, de grande richesse de Dieu à l'endroit de ses enfants. Dans le Nouveau Testament, un deuxième texte, une promesse, une annonce glorieuse du Seigneur Jésus. Lors de la conclusion de la grande fête, la fête des huttes ou du tabernacle, 7 jours, la grande semaine de camping en Israël, parce que Dieu avait prévu aussi une semaine de camping où l'on vivait dans des huttes. Et c'était tout un souvenir extraordinaire du temps du désert et une annonce aussi du grand camping céleste qui nous attend tous. Dans Jean chapitre 7, verset 37, à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, Jean 7, 38, celui qui croit en moi, littéralement vers moi, qui fait le mouvement de venir vers moi pour mettre sa confiance en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et très certainement, Jésus prononçait ce court message percutant, glorieux, alors que le souverain sacrificateur, ou peut-être d'autres sacrificateurs, étaient en train de verser de l'eau qu'on était allé chercher, en souvenir aussi de certains éléments de la vie au désert. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Troisième texte, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 tout d'abord, le verset 30, Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire de la manifestation totale de votre rachat. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, mais nous le sommes en espérance. Nous sommes toujours enfermés dans un corps qui nous fait souffrir. Nous vivons les difficultés de cette terre, nous sommes solidaires de la pollution qui nous entoure, nous sommes marqués au coin du péché même, dans notre nature. Mais un jour, et ce jour est si proche, notre rédemption sera un fait totalement accompli par la résurrection des corps, lorsque nous serons dans la présence de Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et un peu plus loin, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin. » 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin. » C'est de la débauche. C'est un manque absolu de contrôle de votre personne. C'est un signe d'intoxication. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Un dernier texte, dans l'Épître aux Colossiens, l'Épître de la plénitude. Colossiens, tout d'abord au chapitre 1er, Colossiens 1, 19, où il est question de la beauté de la personne du Seigneur Jésus. Et dans la fin d'une merveilleuse énumération, il nous a dit au verset 19, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » Dieu a voulu faire habiter en Jésus-Christ toute plénitude. Et le terme « plénitude » était un terme très connu de la philosophie de l'époque, surtout de la philosophie grecque et orientale. C'était le niveau le plus haut que la plénitude puisse atteindre. Quand on ne savait plus comment parler de plénitude, eh bien on n'avait plus qu'un mot, c'était celui-là, le plérôme. En lui, Dieu a voulu qu'habite le plérôme de sa divinité. La totale divinité de Dieu est en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas un demi-Dieu, ce n'est pas une créature issue des mains de Dieu, ce n'est pas un fils avec un petit f. Il est Dieu. Il est d'égale nature. Voilà ce que l'apôtre Paul éprouvait le besoin de dire aux Colossiens parce que les faux docteurs étaient en train de leur enseigner tout à fait autre chose. Et c'est pourquoi il enfonce le clou au chapitre 2, dans les versets 9 et 10. Il les met d'abord en garde au verset 8 contre les dangers d'une philosophie spirituelle justement qui diminue la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et il affirme clairement, car en lui, en Christ, habite, et habite ici de manière permanente, ce n'est pas un campement là, habite de manière permanente, corporellement, toute la plénitude de la divinité ou de la déité. C'est un mot unique dans le Nouveau Testament. Unique. Il n'est que dans ce texte. Il y a le mot divinité ailleurs dans le texte des Écritures. Mais il n'est que là, celui-ci. La déité. Comme si l'apôtre Paul avait voulu dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils, en lui, habite corporellement tout le plérôme, la plénitude absolue de la déité. Il est Dieu. Et il ajoute, ça c'est une conséquence, elle va nous intéresser ce matin, vous avez tout pleinement en lui, littéralement. Dit le texte grec, vous êtes rempli en lui. Vous êtes rempli en lui. Nous sommes arrivés, non sans peine, à notre quatrième étude sur le Saint-Esprit. Je n'irai pas vous demander de vous souvenir de tout ce que nous avons partagé, puisque la précédente étude, j'ai réécouté la dernière cassette, remonte à près d'une année. Mais je rappellerai simplement que nous avons fait au préalable cinq grandes recommandations pour toute étude sur le Saint-Esprit. Premièrement, nous ne vivons pas de la conviction des autres. Deuxièmement, nous examinons le sujet dans toute la Bible. Parce que l'Ancien Testament à lui seul ne suffit pas. Les évangiles à eux seuls ne suffisent pas. Les actes des apôtres à eux seuls ne suffisent pas. Il faut l'enseignement qu'on appelle normatif, décisif, des épîtres. C'est sur la base de toutes les Écritures qu'on examine le thème de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Troisièmement, le Saint-Esprit est une personne divine. On n'aborde pas la question du Saint-Esprit, donc, comme si le Saint-Esprit était de la matière, si c'était quelque chose de secondaire. C'est de Dieu que nous parlons. Quatrièmement, nous devons nous souvenir toujours que le Saint-Esprit met la personne de Jésus-Christ en avant. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même. Il présente la personne de Jésus-Christ. Il enseigne au sujet de Jésus-Christ. Ce qui fait que la marque d'une vie remplie de l'Esprit n'est pas dans le fait que l'on va parler du matin au soir du Saint-Esprit, mais est dans le fait que l'on va être rempli, comme nous le redirons ce matin, de la personne de Jésus-Christ. Et enfin, cinquièmement, le Saint-Esprit a notamment inspiré les rédacteurs de la Bible. Il est le traducteur, il est l'interprète officiel, patenté et unique des Saintes Écritures. Il est le seul qui soit capable de nous décrypter, de nous traduire, de nous interpréter, de nous faire comprendre et d'appliquer à notre cœur la pensée qui vient du cœur de Dieu. L'homme n'a pas des capacités naturelles qui lui permettent d'accéder à la connaissance de Dieu. Il doit obligatoirement passer par le Saint-Esprit qui va lui révéler Dieu par la personne de Jésus-Christ en se servant de l'ensemble des Écritures. Ça, c'est aussi un enseignement très, très important. Ce que le Saint-Esprit enseigne n'est donc jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Il y a un accord parfait entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et la parole qu'il nous a donnée. Ça, ce sont les cinq recommandations préalables que nous avions longuement développées dans notre première étude. Dans notre deuxième étude, en examinant à nouveau quelques aspects de ces recommandations, nous nous sommes attardés sur la personne du Saint-Esprit. En rapport avec notre sujet, nous avons développé quelques aspects de la personne et du ministère du Saint-Esprit. Dans notre troisième étude, nous avons surtout tenu d'abord à indiquer clairement la différence à faire entre ce que la Bible parle, ce dont la Bible parle lorsqu'elle parle du baptême du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit, puisque les deux formes sont valables dans le texte original, et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce qu'il règne sur la question une grande confusion, liée notamment au fait que dans les siècles passés, des hommes de Dieu absolument remarquables, mais qui n'étaient pas sensibles à ces questions de nuances, ont utilisé très facilement le terme baptême du Saint-Esprit pour évoquer en fait ce qui était être rempli du Saint-Esprit. Même des hommes de Dieu comme Hudson Taylor ont dans leurs écrits et dans leurs prédications confondu les deux choses et bien sûr ont fait référence à eux pour justifier une confusion actuellement et c'est bien dommage. Il y a de grandes différences, nous l'avons vu, entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Et puis nous avions terminé dans cette étude de février l'an dernier par le totalitarisme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un Dieu totalitaire. Il est à la fois un hôte respectueux, mais totalitaire et envahissant. Dieu ne se contente pas de demi-mesure. Dieu veut tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Lorsque Dieu a choisi dans l'Ancienne Alliance le peuple d'Israël pour en faire son peuple, par excellence, pour pouvoir bénir toutes les nations au travers de ce peuple, il a voulu se donner totalement à lui. Il s'est donné comme un époux se donne à son épouse. C'est d'ailleurs l'image qui est utilisée à maintes reprises dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée, par exemple. Et Dieu dit, si je me donne à toi, je veux que tu te donnes à moi. Nous contractons une alliance, ensemble. Toi, peuple d'Israël et moi, qui t'ai choisi souverainement, gratuitement, sans qu'il y ait quoi que ce soit comme relation avec des mérites quelconques de ta part. Alors si je me donne à toi, si je suis loyal envers toi, si je me donne à toi sans retour, pour les bons et les mauvais jours, j'attends de toi que tu te donnes de ton côté entièrement à moi. Je ne veux pas le vestibule, je ne veux pas la cuisine, je ne veux pas seulement le salon et la salle à manger, ni même la chambre à coucher, je veux la totalité de ta personne. Je ne me contenterai pas de moins que cela. Et nous avons longuement développé cette question de la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Et je vous rappelle cette parole de Hudson Taylor, combien de peu de personnes dans le peuple de Dieu ont reconnu que si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Vous vous souvenez de la petite Bible, du chant que j'ai mis en vente l'an dernier, par lequel je me suis glorieusement enrichi, paraît-il. Enfin, vous vous souvenez ce qui était là de toutes les illustrations que nous avions utilisées. Nous allons donc maintenant, après ce rappel, faire un pas de plus, toujours dans cette analyse d'Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et je vous rappelle que nous avions déterminé au départ dans quel ordre nous examinerions cet impératif. En commençant par la fin, « Soyez remplis du Saint-Esprit », nous avons commencé par le Saint-Esprit. Actuellement, nous examinons la deuxième partie, celle qui est centrale, soyez remplis. Ce qui nous intéresse, c'est précisément maintenant la plénitude. Et nous allons venir à l'impératif lui-même, c'est-à-dire soyez, dans la dernière partie. Avant que nous arrivions à cet impératif, soyez et tout ce qu'il peut signifier pour nous, j'aimerais simplement que nous nous rappelions que le Seigneur veut que nous débordions. Le Seigneur veut que nous transpirions sur les autres. Pas moins que cela. Il le disait dans Jean 7, 38, 39, n'est-ce pas? C'est une source d'eau vive qui doit jaillir vers l'extérieur. Dieu veut une plénitude débordant. Et c'est là ce qui fait toute la différence entre un christianisme normal et un christianisme malade, entre une vie chrétienne authentique et une vie chrétienne rétrograde. Toutes ces dernières années, vers la fin du mois d'octobre, profitant d'une série de conférences que je vais donner à Carpentras, nous passons quelques jours de vacances dans une petite maison qui est située à quelques kilomètres de la fontaine de Vaucluse et à quelques pas du mont Ventoux. C'est un endroit que nous aimons beaucoup. Et chaque fois que nous déposons nos valises dans notre appartement, la première ou une des toutes premières choses que nous faisons, c'est de nous remettre dans la voiture pour faire les quelques 7 ou 8 kilomètres qui nous séparent de cette fameuse fontaine de Vaucluse. Parce qu'il faut savoir que cette fontaine de Vaucluse est extraordinaire. C'est donc une rivière qui démarre là, à flanc de montagne, au pied d'une falaise. Mais lorsqu'on approche, qu'on monte peu à peu vers l'endroit où la rivière est censée jaillir, on peut être très déçu. Et c'est ce qui nous est arrivé maintes fois. Tout simplement parce que très souvent, la rivière est là, au fond du trou. Il faut se pencher au pied de la falaise et on voit de l'eau glauque là au fond du trou. Bien sûr, quelques centaines de mètres plus bas, l'eau jaillit à travers les rochers, mais en fait, elle ne jaillit pas dès le départ. Elle arrive à fleur de terre, à fleur de rocher, quelques centaines de mètres plus loin. L'an dernier, lorsque nous sommes arrivés dans notre joli petit endroit, nous nous sommes bien entendu précipités parce que nous savions qu'il avait beaucoup plu. Et à notre grande joie, nous avons vu alors la fontaine de Vaucluse dans son jaillissement, là, au niveau du trou. C'était extraordinaire. C'était fantastique que de voir ces cascades merveilleuses d'une rivière qui enfin était ce que l'on nous avait annoncé. Elle débordait. Et nous sommes retournés la voir. Nous étions tellement heureux, enfin, de pouvoir contempler ce miracle de nos propres yeux. Il y a aussi, dans la vie chrétienne, ces moments où l'eau est au fond du trou, où les autres doivent quelque peu se pencher pour essayer de discerner la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Et puis il y a ces moments où la vie de Christ est débordante, où il n'est pas nécessaire de se pencher, et où tout le paysage en est complètement modifié. Où en sommes-nous dans ce domaine? Vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, ce phénomène qui libère dans l'atmosphère une eau évaporée physiquement ou transpirée physiologiquement. Et il faut savoir que l'importance de ces mécanismes est considérable, notamment au niveau des forêts dans le monde. Je ne sais si vous savez qu'un bouleau évapore quelque 75 litres d'eau par jour. Un hêtre évapore 100 litres d'eau par jour. Un tilleul, 200 litres. Un hectare de forêt des régions tempérées de nos régions évapore donc entre 20 000 et 50 000 litres d'eau par jour. Et on a calculé que la masse d'eau libérée dans l'atmosphère par évapotranspiration du manteau végétal est de l'ordre, tenez-vous bien, de 2 000 à 3 000 tonnes par hectare et par an dans nos régions. Et elle peut atteindre de 6 à 7 000 tonnes en Europe du Nord et du Centre. Combien nos forêts donc jouent un rôle important. Et on comprend qu'il y ait de l'alarme dans le cœur de ceux qui suivent de très près la déforestation mondiale en Amazonie et ailleurs, lorsque nous savons l'importance pour l'équilibre climatique de cette évapotranspiration. Vous savez, le Seigneur Jésus a utilisé très souvent la nature pour nous enseigner de grandes vérités spirituelles. Nous sommes, nous aussi, comme des arbres, disent les Écritures. Et Dieu veut que nous soyons des arbres plantés près des courants d'eau, qui non seulement portent du fruit en leur saison, mais qui, précisément, vivions ce phénomène d'évapotranspiration. Nous sommes appelés à être un lac de Galilée et non une mer morte. Si certains d'entre vous sont allés au bord du lac de Galilée, ensuite auprès de la mer morte, vous savez tout ce que cela signifie. La mer ou le lac de Galilée est un plan d'eau absolument extraordinaire, avec ses sources non loin de là, cette eau qui jaillit des pentes et des sommets enneigés de l'Hermon, qui est à quelques 2000 mètres d'altitude. Et c'est extraordinaire de voir le caractère poissonneux de ce lac, la verdure autour de ce lac aussi, c'est un petit paradis. Et puis on descend vers le sud, et puis on arrive là, un peu plus loin que Jéricho, dans une région qui est tellement difficile à vivre, la mer morte. Une région où, vous le savez, les insectes font quelques mètres au-dessus de la mer et meurent immédiatement, simplement à cause des vapeurs qui montent de cette mer. Et bien sûr, si on prolonge, si l'on va vers le sud, il arrive un moment où on arrive dans la région sud de la mer morte et on comprend. La mer morte reçoit des eaux abondantes, mais elle garde tout pour elle. Là où le lac de Galilée reçoit des eaux généreuses, mais les envoie aussitôt plus loin, la mer morte, en égoïste qu'elle est, garde tout pour elle. Et c'est une mer qui meurt. Il est intéressant de constater que Dieu s'est aussi arrangé pour donner au territoire d'Israël une configuration climatique, de relief également, etc., qui permettent de tirer des conclusions spirituelles. Il est des croyants qui sont semblables au lac de Galilée. Ils reçoivent toutes les grâces d'en haut, mais ils les donnent. Ils les partagent plus loin. Il en est d'autres qui sont toujours en train de dire « donne, donne, donne », mais qui ne donnent jamais plus loin. Ils meurent spirituellement. La plénitude du Saint-Esprit est destinée à se répandre en bénédiction sur les autres, au travers de l'évangélisation, au travers du souci que l'on a de ceux qui nous entourent, qu'ils ne soient pas encore en Christ ou qu'ils soient déjà en Christ. Sommes-nous tournés vers les autres? L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5:5. Et le texte dit pratiquement littéralement qu'il est versé généreusement, hors du cœur de Dieu, dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Enfin, j'aimerais, en terminant sur ce plan-là, souligner que être rempli du Saint-Esprit, c'est toujours être rempli de la personne de Jésus-Christ. Vous êtes rempli en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. Ça, c'est le grand message. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Jésus-Christ. C'est en lui que nous trouvons la plénitude de notre satisfaction. Je pense à l'histoire de ce riche propriétaire américain qui avait un fils unique qu'il aimait beaucoup. Ce fils unique était malade. Et peu avant sa mort, le père décida de faire réaliser un portrait de ce fils unique. Et peu après que le portrait ait été réalisé, le fils mourut. Et ce fut une grande détresse, un grand chagrin pour le père, qui mourut à son tour. C'était un homme qui avait possédé de très grandes richesses, qui n'avait pas de famille, qui n'avait donc pas d'héritier direct. Et lorsque le notaire prit connaissance du testament, il découvrit que cet homme riche faisait de tous ses serviteurs les héritiers de ses biens. Vous imaginez la liesse et aussi l'imagination qui se met à travailler chez ces nombreux serviteurs convoqués tel jour à telle heure dans une des grandes salles d'une des propriétés de ce défunt patron. Ils imaginaient ce qu'ils allaient peut-être recevoir à la faveur du testament. Le notaire, de commencer la lecture du testament. Et le testament indiquait tout d'abord que le premier cadeau, en quelque sorte, le premier héritage, c'était ce fameux portrait. Et il n'y avait pas de désignation pour ce portrait. Ce portrait serait à celui parmi les serviteurs qui exprimerait le désir et qui s'avancerait dans la salle pour le recevoir des mains d'un huissier. Vous pouvez imaginer les échanges de regards quelque peu ironiques, le mépris qu'on pouvait lire chez certains, se disant, oui, si on reçoit le portrait, qu'est-ce qu'on aura après ? Il y a la Rolls qui nous intéresse. Finalement, un vieux serviteur, très ému, se fraya un chemin jusqu'à l'avant et demanda qu'on lui remît ce fameux tableau. Et il retourna à sa place, serrant le tableau contre son cœur avec une larme au coin de l'œil. Le notaire reprit la lecture du testament. Il n'y avait plus que quelques mots. Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. Vous imaginez le désarroi des nombreux serviteurs. Celui qui reçoit mon fils reçoit tout. Vous savez que c'est ce que Jésus a dit par le biais de la parabole du fils prodigue. Lorsqu'il évoque dans la conclusion de cette parabole l'attitude de fureur, d'indignation du fils aîné qui vitupère, qui secoue le père, en lui disant « Mais comment est-ce que tu as pu accueillir ce vaurien qui a traîné ton nom dans ta boue, qui a dilapidé tes biens, qui t'a considéré comme mort ?» Pour moi, tu n'as jamais fait un festin. Et pourtant, qui sait si j'ai travaillé jusqu'à présent? Et le père de lui dire, mais mon fils, mais tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Vous savez, ce n'était pas pour rien que Jésus disait cela. Tout ce que le Seigneur Jésus a, est à nous. Tout ce qu'il a est à nous. Nous sommes, par la grâce de Dieu, propriétaires en indivision. Je suis héritier du Seigneur en indivision. Tout ce qui est à lui est à moi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre de toutes les richesses que Jésus-Christ met à notre disposition tous les jours. Le Seigneur Jésus, il nous remplit, il nous suffit pleinement. Voilà ce qu'écrit Hudson Taylor dans un de ses livres. Que Dieu vous garde, et non seulement vous garde, mais vous remplisse de plus en plus et fasse déborder de votre âme des eaux vives. La seule chose dont il faut nous souvenir, c'est qu'il a plu au Père que toute plénitude habite en lui. Hors de lui, nous n'avons rien, nous ne sommes rien, nous ne pouvons porter aucun fruit pour Dieu. Il ne nous donnera pas, à vous ou à moi, quelque peu de ses richesses pour que nous en usions et en vivions hors de lui, mais en lui, tout est à nous. Avec lui, il y a pour nous une fête continuelle. Connaître Christ comme l'époux est la plus grande bénédiction. Non pas le fiancé qui fait des visites occasionnelles, mais l'époux. Je suis toujours avec vous. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tels sont pour nous ces messages d'amour. Voilà ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit. Faut-il simplement, en terminant cet aspect, souligner, d'après Éphésiens au chapitre 5 et au verset 18, le contraste absolu entre l'intoxication de vin qui conduit à la perte du contrôle, c'est là le sens exact du mot débauche, la perte du contrôle de soi, parce qu'il y a un autre terme qui doit être rendu par débauche, mais qui ne signifie pas du tout la même chose, c'est la porneia, c'est-à-dire la déliquescence, la manière dont on se vautre dans toutes les formes d'impureté d'une sexualité déviée. Mais ici, ce n'est pas ce terme. Ici, il est question de ne pas pouvoir se maîtriser, de ne pas pouvoir se contrôler, ce qu'on appelle le dérèglement. Ne vous enivrez pas de vin, c'est du dérèglement. C'est de la perte de contrôle. Alors que être rempli du Saint-Esprit, c'est être aussi rempli de cette dimension du fruit de l'Esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Et c'est important de le dire. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit ne se traduit donc jamais en excentricité, en bizarrerie, en perte de contrôle de ses paroles et de ses gestes, ni en débordement quelconque, en incohérence, en rire difficile à arrêter, je ne sais quoi d'autre. J'avais noté cette remarque, la différence essentielle qui distingue les manifestations données par le Saint-Esprit des manifestations dues au spiritisme, à la possession démoniaque et à d'autres, c'est que le Saint-Esprit nous laisse libres. Dans le spiritisme, le médium est forcé d'abandonner le contrôle de sa volonté, de sa personnalité, à l'esprit qui le tient et se sert de lui. Il est obligé de faire et de dire des choses qu'il ne se serait jamais permises. Le Saint-Esprit n'agit jamais ainsi avec le chrétien. La volonté, la personnalité comptent parmi les dons les plus précieux que Dieu a faits à l'homme. Dieu ne nous force jamais la main. Le principe de Satan est de nous rendre esclaves, mais Dieu fait de nous des fils. Alors c'est important ce que nous disons là, parce que cela peut nous aider à discerner chez ceux et celles qui se réclament de Christ si oui ou non ils sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce que leur comportement en devient incohérent? Est-ce qu'ils sont incapables de se maîtriser? Ou est-ce que véritablement le Saint-Esprit les contrôle? Le Seigneur les contrôle par la maîtrise de soi. Est-ce qu'il y a chez eux une ressemblance à Jésus-Christ? J'aimerais, à partir de là, que nous passions quelques courts moments à voir la troisième partie de notre réflexion. Soyez, soyez, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez. Nous allons devoir faire plusieurs remarques. La première, pour souligner que c'est un impératif. Ne soyez pas intoxiqués, mais soyez remplis. C'est donc un ordre catégorique. C'est un commandement. C'est un devoir. Être rempli du Saint-Esprit ne nous est pas suggéré. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est une obligation. C'est la volonté de Dieu pour moi. Ce n'est pas un simple conseil poli de la part de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit est donc le statut d'une vie chrétienne normale. C'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Tout autre statut est donc anormal, dangereux, préjudiciable. Lorsque Dieu a appelé Ananias à aller à la rencontre de Saul de Tarse, qui était en train de vivre cette conversion intérieure, cette repentance, et qui était en train de refaire toute sa théologie de l'Ancien Testament à la lumière de tout ce qu'il venait de découvrir en Jésus-Christ, Dieu a mis dans la bouche d'Ananias ce qu'il devait dire à Saul de Tarse. Et dans ce qu'il devait dire, il y avait une chose bien précise. J'ai été envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et quand nous nous convertissons à Jésus-Christ, quand nous passons par la nouvelle naissance, et que nous sommes donc à ce moment-là baptisés du Saint-Esprit, puisque le baptême du Saint-Esprit, redisons-le, correspond à la régénération dans les Écritures, nous sommes identifiés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Dans notre vie personnelle, nous faisons un avec Christ dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection. Mais Dieu veut qu'à partir de là, nous soyons remplis de la vie de son Fils. Voilà le statut normal du croyant. Soyez, ce n'est pas seulement un impératif. Soyez, c'est un impératif pluriel. Et cela, c'est très dérangeant pour nous qui avons tendance à être très individualistes dans notre christianisme. Soyez, c'est un pluriel. Tout simplement parce que, notamment, l'Épître aux Éphésiens était une circulaire. Et une circulaire adressée à plusieurs églises dans une région. L'Épître aux Éphésiens s'appelle Épître aux Éphésiens, mais à l'origine, elle ne s'appelait pas Épître aux Éphésiens. En réalité, on a retrouvé la même épître qui s'appelait autrement, l'Épître aux Laodicéens. On a retrouvé aussi des Épîtres aux Éphésiens, des textes où il y avait un blanc. Épître aux, il n'y avait rien. Tout simplement parce que c'était une épître qui était destinée à l'ensemble des églises évangéliques, dirions-nous aujourd'hui, de toute la Turquie actuelle d'Asie mineure. Et comme Éphèse était le chef-lieu, la grande capitale, certainement c'est à partir de là, en quelque sorte, que cette épître a rayonné, c'est peut-être là que l'original a été déposé, et finalement on l'a appelé ainsi. Donc quand il est dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », cela s'adresse à toute l'Église de Jésus-Christ, à tous les croyants, sans exception. Toute l'Église est concernée. Et il est donc important que non seulement un membre de l'Église soit rempli du Saint-Esprit, mais qu'une Église veille de manière à ce que, je dirais, le maximum, je suis réaliste, hein, le maximum des membres soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que l'état d'un membre va influer sur les autres. Hélas, en mal parfois, heureusement aussi, en bien. Impératif, pluriel, toute l'Église est concernée. Troisièmement, c'est un impératif passif. Soyez rempli. Le texte ne dit pas « remplissez-vous ». Soyez remplis, c'est-à-dire laissez l'Esprit vous remplir. Parce que nous ne pouvons pas manipuler le Saint-Esprit. et nous remplir nous-mêmes. Si nous cherchons à manipuler le Saint-Esprit pour nous remplir nous-mêmes, faisons attention. Parce que là, nous risquons de donner l'occasion à quelqu'un d'autre de prendre la place qui revient à Dieu, mais qui aime la caricature, qui aime l'ersatz, qui aime ce qui n'est pas authentique, à savoir la puissance des ténèbres. Et il est des croyants qui ont beaucoup souffert parce qu'ils n'ont pas compris cet impératif de la bonne manière et qu'ils ont voulu manipuler le Saint-Esprit et l'obliger à faire certaines choses. Et ils ont laissé accès de cette manière à l'activité de la puissance des ténèbres sans réaliser que le diable est un menteur et qu'il est expert en caricature pour nous faire croire que nous sommes remplis du Saint-Esprit alors que c'est de tout à fait autre chose que nous sommes remplis. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. C'est un merveilleux cadeau que Dieu nous fait. Ce qui ne signifie pas, et c'est là tout l'équilibre de la parole de Dieu, ce qui ne signifie pas qu'on soit rempli du Saint-Esprit dans une passivité totale. Nous ne sommes pas intoxiqués par le vin passivement non plus. Cela veut dire que nous devons remplir les conditions qui vont permettre au Saint-Esprit de nous remplir. Soyez remplis du Saint-Esprit, sous-entendu, remplissez les conditions et vous serez remplis du Saint-Esprit. Alors quelles sont ces conditions? Première condition, c'est un tout petit mot mais qui est important dans les Écritures, le mot purification. En Belgique, une fermière habitante un hameau éloigné s'était plainte à l'administration de ne pas recevoir l'eau courante avec suffisamment de pression. Et elle reçut comme réponse une lettre très laconique. Cela ira mieux, madame, quand vous aurez une meilleure conduite. Bien entendu, il s'agissait d'une conduite au sens le plus littéral du terme, une conduite matérielle, un tuyau. Mais il y a des moments où le Seigneur nous dit ceci. Quand dans nos vies, nous nous plaignons qu'il n'y ait pas assez de pression dans le domaine spirituel, dans le bon sens du terme, il se pourrait que le Seigneur ait envie de nous envoyer un message, mais que nous n'avons pas envie, nous, de recevoir. Mais ça ira mieux, mon ami, quand tu auras une meilleure conduite. Ton problème, c'est que ta conduite est en mauvais état. Elle ne laisse pas passer ma puissance. Rétablis ta conduite. Remets ta canalisation en état. Viens à la croix pour que ta relation avec moi soit rétablie. Il est intéressant de voir que, bien sûr, Éphésiens 5, 18 s'inscrit dans un contexte. Ça ne vient pas là comme un cheveu sur la soupe. Nous avons lu tout à l'heure Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il est évident que le Saint-Esprit attristé ne peut pas nous remplir. Et l'apôtre Paul, en bon pédagogue, s'est arrangé pour illustrer son propos, pour le préciser, et pour énumérer toutes les impuretés qui peuvent boucher la canalisation et empêcher le Saint-Esprit d'agir librement, de parcourir librement notre vie pour bénir les autres. Alors, vous avez dans Éphésiens 4, verset 25, renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, Au verset 26, il est question de colère, et de ces colères avec lesquelles on s'endort quand on réussit même à s'endormir. Au verset 27, il est question d'une manière générale de ne pas donner accès au diable. Verset 28, il est question du vol. Et il est ajouté, mais il vaut mieux travailler en faisant de ses mains ce qui est bien, non seulement pour soi, mais pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Puis au verset 29, il est question de notre langue. Et là, les termes sont très forts. Des paroles pourries, moisies, gâtées, malodorantes. Le terme est très fort dans le texte original. Verset 31, il est question de l'amertume, de l'animosité, encore une fois de la colère, de toutes les formes d'irritation, de toute clameur, de tous les cris, de nos emportements, toute calomnie, le texte grec dit tout blasphème, toute parole qui calomnie et Dieu et les autres, toutes les méchancetés possibles et imaginables. Le chapitre 5, d'ailleurs même encore au verset 32 du chapitre 4, il est question du pardon, le refus du pardon. Chapitre 5, verset 3, la porneia, voilà la débauche. Toutes les formes de déviation de la sexualité, mais même qui commencent simplement au niveau de pensée. Fantasme, voyeurisme, regard d'émissions douteuses, lecture de livres, de revues douteuses, etc., etc. Toutes les formes d'impureté, la cupidité, tous les aspects possibles d'avarice, de fausses relations avec les biens, quels qu'ils soient. Et puis on recommence au verset 4, les paroles grossières, les propos insensés ou équivoques. Et avec cette remarque très solennelle, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il est question de vains discours, de tous ces discours qui divisent, qui séduisent. Voyez donc qu'il y a là toute une énumération, et nous pourrions continuer ainsi, parce que toute la suite du texte va dans le même sens. Au verset 22 et suivant, il est question des relations à l'intérieur du couple. Il est évident que comment serais-je rempli du Saint-Esprit si je maltraite mon épouse, ou si je suis sans aucun respect à l'endroit de mon mari. Au chapitre 6, verset 1 et suivant, il est question des relations entre parents et enfants. Comment pourrais-je être rempli du Saint-Esprit si je n'ai pas vis-à-vis de nos enfants une aptitude qui honore le Seigneur? Et si je suis enfant et converti à Jésus-Christ, comment pourrais-je être rempli du Saint-Esprit si je n'honore pas mes parents? Avec tout ce que cela signifie sur un plan tout à fait concret, jour après jour. Et puis au verset 5 et suivant, il est question des relations ouvrier-patron, du travail dans l'entreprise, dans la société. Comment serais-je rempli du Saint-Esprit si je donne un mauvais témoignage dans l'entreprise, là où je travaille, dans la vie professionnelle, y compris quand cette vie professionnelle s'appelle lycée, collège, université? Comment serais-je rempli du Saint-Esprit si je suis patron et que je maltraite, que j'exploite, que je suis dur avec mes ouvriers? Voyez, tout cela, c'est le contexte d'Éphésiens chapitre 5, verset 18. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Tout ce qui bouche la canalisation empêche le Saint-Esprit de me remplir. Nous aurions pu prendre un Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'Esprit. C'est-à-dire, n'entravez pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ne lui faites pas d'opposition, ne résistez pas à son action. Ne vivez pas dans une désobéissance persistante qui étouffe progressivement son œuvre en vous. Ne résistez pas lorsqu'il vous octroie des dons spirituels dans la marche de l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, soyez à votre place. Si le Seigneur vous avait un don pour le travail parmi les enfants, apprenez à exercer ce don. Ne résistez pas. Si le Seigneur vous a doué dans un autre domaine, ne résistez pas. Soumettez-vous au Saint-Esprit qui vous accorde une place au sein du corps de Christ et une fonction. Il y a la part de Dieu, et puis il y a ma responsabilité. Et j'aimerais simplement terminer par une lecture. Il y a d'autres conditions, mais ça c'est la condition fondamentale. Le Saint-Esprit ne peut déployer ses capacités, sa puissance, que dans une conscience purifiée par le sang de Jésus-Christ, que dans un cœur qui lui est complètement donné, comme nous l'avions vu. Et j'aimerais, en terminant, nous verrons plus tard la suite de cette étude, j'aimerais partager avec vous un témoignage écrit que j'ai sous les yeux, qui est un beau témoignage d'un missionnaire qui a travaillé pendant longtemps en Afrique, et notamment dans un de ces pays qui a été traversé, qui connaît encore un réveil spirituel en profondeur, parce qu'il est bien centré sur Christ. Et voilà ce que raconte ce missionnaire. Je me souviens, comme si c'était hier, de mon arrivée en Ouganda, il y a 35 ans. Jeune missionnaire, je fis la connaissance de plusieurs chrétiens africains qui avaient été profondément touchés par les premiers réveils de l'Est africain. J'avais beaucoup entendu parler d'eux, et je me réjouissais de les rencontrer. J'eus un choc lorsqu'après les salutations d'usage, ils me posèrent ce qui était pour un missionnaire de fraîche date une étonnante question. « Êtes-vous sauvé ?» Je fus stupéfait, mais je surmontai rapidement cette réaction pour répondre par l'affirmative. Alors, ils me posèrent une deuxième question. « Quand avez-vous été sauvé et comment ?» De nouveau surpris, je répondis en leur racontant que mes parents étaient missionnaires en Inde, qu'ils m'avaient parlé de Jésus depuis ma plus tendre enfance. De plus, à l'âge de 6 ans, j'avais en toute conscience reçu Jésus-Christ dans mon cœur en l'acceptant comme mon sauveur personnel. Tout allait bien lorsqu'ils me posèrent une troisième question, qui, je dois l'avouer, me toucha plus encore. Cette fois, ils voulaient savoir. Et maintenant, que se passe-t-il? On ne m'avait jamais interrogé sur ce point. Dans les milieux évangéliques où j'évoluais, si quelqu'un était au clair sur son salut et pouvait affirmer que Jésus-Christ était son sauveur personnel, cela suffisait. Voilà que ces hommes me demandaient ce qui se passait maintenant. Quel était mon témoignage actuel? Je crains qu'une réponse sincère aurait été que je n'avais pas de témoignage particulier à présent, que je vivais sur une expérience passée, que sous le couvert d'une bonne façade se cachaient nombre de péchés, de défaites, surtout dans le domaine de mes pensées. Combien je bénis Dieu pour l'affection et l'intérêt qui poussèrent ces chrétiens à me poser de telles questions. Le Saint-Esprit me révéla ce que je savais en théorie, à savoir que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, et que ce que le sang a purifié, le Saint-Esprit peut en prendre possession. Ce n'est que 2 ans plus tard que d'autres chrétiens africains me posèrent une quatrième question, plus embarrassante encore. Elle allait m'obliger à envisager une dimension totalement nouvelle dans ma vie spirituelle. Cette fois, elle était « Votre coupe déborde-t-elle ? » Ces chrétiens rentraient d'une convention dans l'ouest de l'Ouganda qui avait réuni plus de 1500 personnes. Les paroles de Jean 7, 37, ce texte que nous avons lu tout à l'heure de la bouche même de Jésus, ces paroles avaient dominé cette rencontre. On leur avait demandé de lever leurs mains pour représenter la coupe. coupe de leur vie et d'imaginer que Jésus était au milieu d'eux, porteur de l'eau de la vie, la plénitude du Saint-Esprit qui désaltère. Mais le Saint-Esprit ne peut remplir des coupes impures. Seules des coupes parfaitement pures le reçoivent. Une autre coupe, celle dont parlait Jésus lorsque les gouttes de sang perlaient sur son visage dans le jardin de Gethsémané. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe était la coupe de tous les péchés, des défaites, des désobéissances, des chrétiens comme des païens. Jésus avait goûté la mort pour chacun et sur la croix, lui qui n'avait jamais péché était devenu péché afin que nous soyons revêtus en lui de la justice de Dieu. Image si simple et à la fois si profonde. En voyant mes amis l'Africain avec leur coupe manifestement débordante du Saint-Esprit et dans la joie de ce que le sang de Jésus les avait purifiés, libérés de la peine comme de la puissance du mal, je compris que, moi aussi, je pouvais avoir une coupe débordante. Et cette coupe n'était pas seulement adéquate pour une crise passagère, mais elle devait représenter quelque chose de constant. Je bénis Dieu pour ces quatre questions qui ont revêtu pour moi une immense importance et qui sont essentielles pour chaque croyant. Êtes-vous sauvé? Depuis quand? En êtes-vous sûr? Que se passe-t-il maintenant? Votre coupe déborde-t-elle? Sinon, pourquoi? Nous voulons prier. Père, cette question, tu me l'adresses, tu nous l'adresses. Elle nous concerne tous et chacun en particulier, qui que nous soyons. Ma coupe déborde-t-elle? Merci de nous accorder la grâce de répondre à cette question avec intégrité, avec vérité, avec honnêteté. Mais aussi merci Seigneur de nous aider à aller plus loin. À venir à la croix. À te demander pardon pour des fautes précises. Pour tout ce qui bouche la canalisation, tout ce qui empêche ton esprit d'agir librement en nous et à travers nous.